Amen. Shalom. Nous allons lire deux textes, Luc chapitre 7, le verset 36 à 48, et l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1, le verset 1 à 14. Je commence la lecture en Luc au chapitre 7. Un pharisien l'invita à manger avec lui. Il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Survint une femme de la ville qui était pécheresse. Elle avait appris qu'il était à table dans la maison du pharisien. Apportant un flacon de parfum en albâtre et se plaçant derrière, tout en pleurs, aux pieds de Jésus, et se mit à baigner ses pieds de larmes. Et les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur lui du parfum. Voyant cela, le pharisien qui l'avait invité s'est dit en lui-même, « Si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître, dit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il fit grâce de leur dette à tous les deux. Lequel des deux l'aimera le plus? Simon répondit, « Je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grande dette. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » En se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds, mais elle a baigné mes pieds de ses larmes, les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle n'a pas cessé de me couvrir des pieds, les pieds de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile odorante sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. Si je te déclare que ces péchés si nombreux ont été pardonnés, c'est parce qu'elle a montré, quoi? Beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Il dit à la femme, tes péchés ont été pardonnés. Parole du Seigneur. Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux saints, dans les cieux en Christ. Il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Ainsi, il a voulu sa bienveillance, à la louange et sa gloire, et de la grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes délivrés. En lui, nos fautes sont pardonnées, selon la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a prodigué, en ouvrant toute sagesse et intelligence, il nous a fait connaître les mystères de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement. Réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui aussi, nous avons reçu notre part, suivant les projets de celui qui mène tout au gré de sa volonté. Nous avons été prédestinés pour être à la louange de sa gloire, ceux qui ont d'avance espéré dans le Christ. En lui encore, vous avez entendu la parole de vérité, l'évangile qui vous sauve. En lui encore, vous avez cru. Vous avez été marqués du sceau de l'Esprit promis, l'Esprit Saint, à compte de notre héritage, jusqu'à la délivrance finale où nous prendrons possession à la louange de sa gloire. Amen. Voilà deux textes très importants sur lesquels nous allons circonscrire notre méditation de ce soir. Le thème, le message complet pour un témoignage complet. Le message complet pour un témoignage complet. La question que nous devons nous poser d'entrée de jeu c'est quel est ce message? Je voudrais introduire en disant qu'une lecture sérieuse de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, nous renseigne que la vie de l'homme tire sa source et son fondement en Dieu. Il n'y a personne qui existe sur cette terre, qui soit américain, qui soit européen, qui soit asiatique, qui soit africain. Il n'y a personne, alors personne, qui existe sur la terre de par lui-même. Dieu est la source. Il est le fondement de notre existence. Et donc, si notre vie tire sa source en lui, nous rendrons compte, n'est-ce pas, du temps qu'il nous aura donné à passer sur cette terre. Et donc, pour vivre de façon significative, cela n'est possible que si l'homme, quand je parle de l'homme, je parle de l'enfant, je parle des jeunes qui sont ici, je parle des adultes, que l'homme réalise que sa vie est limitée dans le temps. Que Dieu te donne 30 ans à vivre, qu'il te donne 40 ans à vivre, qu'il te donne 50 ans à vivre, 60, 70, 80, c'est toujours limité. Et la vie doit être donc inscrite, parce qu'elle est limitée, dans le dessein de Dieu, dans le plan de Dieu. Chacun doit être en mesure de comprendre quel est le plan. Je suis né, en fait je suis né pourquoi? Pour quel but? Chaque enfant qui naît sur la terre, dans tous les continents, vient dans un monde qui malheureusement a perdu ses repères. Le monde a perdu ses repères. Il a oublié son créateur. Il a oublié qu'au terminus de la vie, chacun de nous rencontrera son créateur. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est cette grande catastrophe partie de la chute. Le psalmiste dit dans Psaume 51, verset 7, « Je suis depuis ma naissance marqué de péché. Depuis qu'à ma mère, j'ai été conçu. Le péché est attaché à moi. » Que tu le veuilles ou non, le péché est attaché à toi. Tu ne l'as pas voulu, je ne l'ai pas voulu, nous ne l'avons pas souhaité, mais nous sommes venus, effectivement, corrompus dans ce monde. C'est ça le point de départ du message à annoncer. En d'autres termes, tout péché que toi tu as commis, tout péché que moi j'ai commis, tout péché que l'homme de n'importe quel statut social commet, ce péché s'enracine dans les profondeurs de notre être, et cela depuis la chute. Il n'y a donc aucune voie de sortie. Le baptême ne peut pas enlever ce péché, même si dans l'Église catholique on nous parle de Zambia, il y a Asile. Le baptême ne peut pas enlever ce péché. Il y a des personnes dans la CBK qui se font baptiser, peut-être que les parents leur ont dit, si tu te fais baptiser, tes péchés seront enlevés. Non. L'eau du baptême, en elle-même, ne peut pas enlever le péché. Parce que pour beaucoup, c'est comme une douche. Parce que le baptême doit être précédé d'une relation personnelle avec le Christ. S'il y a une expérience que je n'aime pas faire, c'est participer souvent au jury des candidats au baptême. Parce que la question que nous posons, c'est que chacun donne son témoignage. Il y a des témoignages qui m'énervent. Vous sentez que la personne ne sait même pas de quoi il s'agit, que signifie témoigner. Il a certainement eu des occasions, lui a parlé de ça, mais n'est pas en mesure de dire en quelques mots s'il a rencontré le Christ. Il y a des fois où je me dis, est-ce que ça vaut la peine de baptiser ces gens ou pas? Le péché est tellement enraciné en nous, il est très puissant, de manière qu'il maintient l'homme dans l'esclavage, dont il ne peut pas s'étirer lui-même. Si vous lisez Job chapitre 14, verset 4, il est dit ceci, « Peut-on tirer le pur de ce qui est impur ?» Il ajoute, « Il n'en est pas un seul. » Il y en a qui pensent qu'en faisant des raccommodages sur leur vie, ils vont devenir purs. Parce que j'ai déjà entendu des gens qui me disent, en tout cas, « Moi, j'ai buvé, je ne bois plus. » Abandonner l'alcool n'est pas encore la conversion. Est-ce que nous sommes d'accord? Ce n'est pas encore la conversion. J'essaie de faire un effort pour changer ma vie. Tu ne pourras pas. J'ai vécu ça moi-même. Je suis né dans une famille fondamentalement catholique. C'était à Bukavu, mais après, on est parti dans un village. Et c'est là que j'ai commencé l'école primaire. Mais avant que je ne commence, disons quand j'ai commencé l'école primaire, j'ai suivi les enseignements des catéchismes qui conduisent à la communion. J'étais tellement touché par ces enseignements que j'ai décidé ce jour-là, j'étais en troisième année primaire, j'ai décidé ce jour-là de ne jamais pécher. J'ai pris cette décision. Je ne pécherai jamais. Et j'ai essayé. J'ai essayé. En troisième, j'ai essayé. En quatrième, j'ai essayé. Jusqu'en cinquième. Or, à la fin de l'année, de la cinquième année, considéré comme un enfant modèle dans ma classe et même un enfant modèle dans mon quartier, dans mon village, un jour, les élèves se décident d'érosser l'enseignant. Macha tout est ça, tout en pigue. Alors, l'enseignant apprend ça. Il dit, qui va me dire la vérité? Il a dit, je n'ai qu'un seul enfant ici à qui je peux demander si ce qui est dit est vrai. Il est venu me voir, il a dit, Vincent, j'ai appris que tes collègues veulent me rosser. C'est vrai ou c'est faux? Alors, j'ai eu un combat. Moi qui ne veux pas pécher, je me suis dit, si j'ai dit non, j'aurais menti. Mais si j'ai dit oui, je risque d'être pris comme faisant partie de ce groupe-là. J'ai dit non, je ne pécherai pas. J'ai pris le risque. J'ai dit, c'est vrai. Alors il a appelé, il a convoqué ma mère. Le lendemain, il a dit, ton fils est devenu bandit. Ma mère n'en revenait pas. Elle a dit non, je ne crois pas. Ça, c'est pas possible. Elle m'a posé la question, Vincent, est-ce que vraiment tu fais partie de ce groupe? J'ai dit, maman, je ne suis pas dans ce groupe. Je ne suis pas. Alors pourquoi tu as dit que tu étais informé? J'ai dit, j'ai eu un combat dans mon cœur. Je disais, je ne peux pas mentir. Je ne peux pas mentir. J'ai préféré dire la vérité. Elle a dit une phrase qui était comme une bombe à retardement. Elle a dit, on peut mentir un peu pour se sauver aussi. Il y a des parents qui disent ce genre de paroles à leurs enfants. Depuis ce jour-là, je suis devenu un grand menteur. Très grand menteur. Mais j'ai quand même réussi, après ça, de continuer à fréquenter l'église, d'essayer de vivre un peu normalement, jusqu'au jour où, en troisième année, j'ai perdu mon père, et en quatrième année, 2 ans après, j'ai perdu aussi ma mère. Et quand j'ai perdu ma mère, c'était la chute libre. Ce que je n'avais jamais commis comme péché, j'ai commencé à les commettre. J'ai perdu les repères. Ça va durer pratiquement des années. Là, nous sommes en 78. Je vais me convertir 8 ans après, en 86. Je raconte cette histoire pour dire que nous ne pouvons pas nous maintenir de nous-mêmes et par nous-mêmes dans une vie où, sans l'aide extérieure ou intérieure, nous recevons la force de vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. Alors, si l'homme commet des péchés, bien-aimés, des fautes, il n'y peut rien. Parce qu'il lui est impossible, c'est ça que je veux dire, il est impossible à l'homme d'extirper totalement le péché dans sa vie. Ceux qui sont ici connaissent l'histoire de Martin Luther, n'est-ce pas? Vous avez étudié ça en histoire, en quatrième année. C'était un moine, l'un des moines les plus, on pourrait dire, les plus engagés à vivre de façon ordonnée devant Dieu. Jusqu'au jour où il s'est rendu compte que nous ne sommes pas en mesure, par nos propres efforts, de nous sauver nous-mêmes. L'homme peut multiplier des efforts pour s'abstenir du mal et accomplir ce qui est bien, mais ne réussira pas. Et il y en a donc qui se font baptiser croyant résoudre leurs problèmes de péché. Il y en a qui se réfugient dans la prière, commencent à prier. À Kinshasa, on dit « Tobandi Kosambela ». Commencent à prier. Il y en a qui choisissent de devenir choristes dans l'église pour résoudre son problème de péché. Il y en a qui choisissent de servir le Seigneur dans tel ou tel autre ministère, bien engagé. Mais en fait, il y a un vide en eux parce que Christ n'est pas là. Job dit, toujours au chapitre 15, verset 14, il dit ce qui suit. Comment un être humain pourrait-il être pur? Et comment l'homme né de la femme pourrait-il être juste. C'est ça le drame de l'être humain. Nous ne pouvons être justes par nous-mêmes. Oh, Dieu a vu ça. Et c'est le deuxième niveau de mon message. Dieu a vu ça. Il s'est rendu compte de ça. Dieu a conçu un plan, une voie de sortie. Parce qu'il s'agit de parler du message complet. Il a trouvé une voie de sortie. Et la réponse pour les péchés de l'humanité, c'était Jésus le Christ. Alléluia. C'était Jésus le Christ. C'est ça qui m'a amené à lire Luc chapitre 7. Dans ce récit, nous sommes en face d'un pharisien rigoureux, religieusement, qui tente d'être en règle avec Dieu en respectant rigoureusement, scrupuleusement, la loi de Moïse. C'est ça le pharisien. Le pharisien était suffisamment scrupuleux que même si votre poule pond des œufs les jours du sabbat, il ne peut pas toucher à cet œuf-là. Alors le pharisien invite Jésus dans sa maison et comme par malheur, pour lui, une femme pécheresse, une prostituée entre. Cette femme vient avec un flacon de parfum, très cher. Elle se met derrière, elle pleure pour ses péchés, aux pieds de Jésus. Elle ne s'arrête pas là, elle s'est mise à baigner ses pieds de larmes. Si c'était toi, évangéliste, pasteur, une prostituée de Birere, viens, commence à pleurer sur tes pieds. Pas seulement ça, mais t'essuie avec ses cheveux. Vous les évangélistes qui êtes ici, pas seulement ça, te couvre de baisers. C'est assez mal. Quoi, Dina la Yesu, Pepo ou Shindwe? Jésus l'accueille. Ça devrait être une leçon pour nous. Jésus l'accueille. Jésus est plein de pitié vis-à-vis de lui, d'elle. Jésus la laisse faire parce qu'effectivement, elle pleure, elle essuie les larmes, elle essuie les pieds de Jésus par ses cheveux. Elle entoure Jésus de baisers parce qu'elle a trouvé en Jésus celui qui va l'aider à déposer ses fardeaux, le péché. Jésus se rend compte, parce qu'il lit dans les pensées du pharisien, il se rend compte que le pharisien a dit que si Jésus était pécheur, était un homme, un prophète, il aurait su et ne pas laisser faire cette femme. Jésus lui pose la question. Un créancier avait deux débiteurs. L'un lui devait 50 et l'autre 500. Disons 50$ et l'autre 500$. Et puis, il remet la dette de tous les deux. Alors, il pose la question. Lequel va aimer les créanciers? Il répond avec justesse. Il dit, c'est celui à qui il a remis une grande dette. Et c'est correct. Alors, Jésus se tourne vers lui et lui dit, tu as bien jugé. Mais il te dit, tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison, tu n'as pas lavé mes pieds. Elle a baigné mes pieds de larmes, elle les a essuyés, mais toi, tu ne l'as pas fait. Elle n'a cessé de me couvrir de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur moi. Il dit une parole profonde, et c'est ça qui a fait que ce soir, je lise ce texte. Si je te déclare que ces péchés si nombreux ont été pardonnés, c'est parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. À quel niveau nous sommes conscients de l'énormité de nos péchés, de la grandeur de notre perdition, de la puissance du péché qui a agité, désorganisé notre vie, et lorsque nous nous rendons compte que Dieu en Jésus-Christ nous pardonne tous nos péchés, la conséquence, ça doit être de l'aimer. Alléluia. Ça doit être de l'aimer parce qu'il nous a beaucoup pardonné. Nous ne devrions même pas demander aux gens de rendre témoignage avec beaucoup d'énergie. Ça devait être une conséquence directe. Ça viendrait du fond du cœur par reconnaissance pour ce qu'il est, par reconnaissance pour ce que l'œuvre de la croix accomplit dans notre vie. Parce qu'il m'a beaucoup pardonné, je l'aimerai beaucoup. Malheureusement, il y en a dans nos églises qui ne sont pas conscients de leurs péchés. À quel point ils étaient terriblement perdus. J'ai l'habitude de dire à Dieu que j'étais dans le gouffre du péché, d'où personne ne pouvait me tirer. Même la moralité ne pouvait pas m'aider. Aucune religion n'était à mesure de m'aider, mais Christ, en mourant sur la croix, m'a pardonné. Celui à qui on pardonne peu, aimera aussi peu. Je voudrais te poser la question. Est-ce que tu peux mesurer à quel point tu aimes le Seigneur ou tu ne l'aimes pas? Est-ce que tu l'aimes beaucoup? Il peut aussi le témoigner. On peut s'en rendre compte de la manière dont tu te donnes profondément, entièrement à lui. On peut se rendre compte de la manière dont tu le sers avec joie, sans murmure, sans lamentation. Tu lui donnes ton temps. Tu lui donnes même tes biens, ton intelligence, tout ce que tu as et ce que tu es. Tu dis, j'ai reçu gratuitement. Je ne peux que l'aimer de cette manière. Mais ils sont peu nombreux aujourd'hui qui aiment le Seigneur. Si la paroisse Gomaville, il y avait au moins 200 personnes qui aimaient beaucoup le Seigneur, on les trouverait ici. N'est-ce pas? On les trouverait ici chaque jour pour écouter la parole et savoir comment rendre témoignage. Vous êtes souvent rendu compte à quel point les musulmans aiment Allah plus que nous. Parce que les musulmans, quand c'est le moment de fermer la boutique, ils font quoi? Ils ferment, n'est-ce pas? Ils ferment. Ils vont d'abord prier. Mais nous sommes à plaindre. On nous a trompés, on nous a dit que nous sommes sauvés par la grâce moins chère. On ne nous a pas dit combien cette grâce a coûté à Dieu. Quel est le prix que Dieu a payé pour que, relativement à ce prix qu'il a payé, nous puissions nous aussi dire, le Seigneur, je dois l'aimer. Voilà pourquoi Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras le prochain comme toi-même. Et il dit, c'est par ces deux-là que se résume toute la loi. L'amour que nous montrons envers le Seigneur, dans le service, dans la dynamique de ne pas passer un jour sans vivre pour lui, sans rendre témoignage de ce qu'il est pour nous, témoigne aussi combien nous sommes reconnaissants vis-à-vis de ce qu'il a fait pour nous. Je t'appelle à réfléchir. Le niveau de ton amour vis-à-vis du Seigneur montre aussi le niveau de la compréhension de ce que Christ a fait pour toi à la croix. Il n'y a pas de voie. C'est la seule. C'est l'unique. Nous avons aujourd'hui des croyants indifférents et qui se croient être en ordre avec le Seigneur, mais qui montrent peu d'amour, peu d'engagement pour le Seigneur. Moi, j'ai lu le Seigneur parce que quand nous avons commencé la vie des fois, on avait des frères et des sœurs qui étaient suffisamment engagés. Et nous avons fait des grandes choses dans cette ville et ailleurs où nous allions. Voilà pourquoi je disais que la réponse de Dieu pour notre péché, c'est Jésus le Christ. Notre situation était tellement lamentable, désespérée. Dieu nous a aimés d'un amour infini. Dans l'Épître aux Éphésiens, il a souligné avec force, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde en Christ. Il nous a démontré combien il nous aimait. Lui qui nous a prédestinés, alors que nous étions prédestinés à la perdition éternelle, lui, avant la fondation du monde, il a conçu le plan de notre rachat. Voilà pourquoi Paul fait ce que les théologiens appellent la doxologie. Il glorifie le Seigneur. Il est suffisamment ébloui de constater l'œuvre que Dieu a réalisée au travers du Christ. Il dit qu'il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs. C'est merveilleux. En Jésus-Christ, par son sang, nos péchés, nous avons été délivrés. Nos fautes ont été pardonnées. Ce n'est pas qu'ils seront pardonnés, ils ont été pardonnés. Il nous a ouvert les yeux et les cœurs pour que nous puissions connaître le bienveillant dessein, le bienveillant plan que Dieu avait conçu depuis toujours pour nous faire connaître ces mystères. Le mystère du salut. Notre salut est un mystère. Comment comprendre que par la mort d'un seul, de Dieu lui-même en Jésus-Christ, il prend nos péchés sur le bois du calvaire.
s'émerveiller.
Et c'est ça que Paul déclare dans la première Timothée. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est mort pour les pécheurs, dont je suis le premier. Il ne faut pas dire « Jésus nous a sauvés ». Il faut plutôt dire « Il m'a sauvé ». Il y a un musicien congolais, il est déjà mort, qui disait « Yesu akufa kina ikulusu po na masumu na biso ». Non, il est mort à la croix. D'abord pour mes péchés. C'est là que je comprends la teneur de cette œuvre sur la croix. Et l'œuvre qu'il a accomplie, elle est tellement grandiose qu'il mène le temps à leur accomplissement et en Christ, il réunit l'univers entier. Jésus-Christ, par la mort sur la croix, est devenu le chef par excellence qui réunit le monde avec qui ? Avec Dieu. Il n'y a que ceux-là qui, effectivement, ont découvert l'amour de Dieu manifesté à travers l'œuvre de la croix, qui, effectivement, sont alignés devant le Christ, parce qu'ils sont appelés fils et filles de Dieu. Nous sommes donc partie prenante de ce plan qui s'est accompli au travers de l'œuvre de la croix, et c'est pour cette raison que nous sommes appelés à rendre témoignage aux collègues, aux amis, aux frères et sœurs, parce que Dieu n'a qu'une seule voie qu'il utilise. Il met toute sa confiance à l'homme, aux hommes. Les moyens, la méthode par excellence que Dieu utilise pour atteindre d'autres, ce n'est pas les anges, c'est moi individuellement. Le thème de cette semaine, c'est le témoignage et ma responsabilité. Il faut comprendre ça, ce n'est pas notre responsabilité. Le témoignage est ma responsabilité. Pourquoi ? Parce que lorsque moi, nous tous, avons écouté la parole de Dieu, l'évangile de la vérité qui sauve, nous avons cru. Et ce qui s'est passé et s'est merveillé en croyant, il nous a marqué. Je l'ai encore dit hier, il nous a marqué du sceau du Saint-Esprit. Ce sceau du Saint-Esprit, c'est un acompte, c'est un versement qui a été fait. Comme si tu cherches une maison, tu amènes un acompte. On te demande pour 6 mois, $600. Tu amènes encore d'abord $200. C'est un acompte. Tu ramèneras les 400 après. Il a payé un acompte de notre héritage. Et cela jusqu'à la délivrance finale. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur a accompli. Je ne peux donc que me lever, m'engager à rendre témoignage. Parce que je comprends ce que cela représente. Inscrire ma vie dans un idéal. Parce que même la loi de Moïse pour les Juifs n'a pas su résoudre les problèmes du péché de façon parfaite. Je vous invite à lire quelques passages dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9. C'est là que nous allons lire quelques versets. Hébreux chapitre 9, verset 7. Mais dans la seconde, une seule fois par an, Seul entre les grands prêtres, et encore ce n'est pas sans offrir du sang pour ses manquements, pour ceux du peuple. Le Saint-Esprit a voulu montrer ainsi que le chemin du sanctuaire n'est pas encore manifesté tant que subsiste la première tente. C'est là un symbole pour le temps présent. Des offrandes et des sacrifices y sont offerts, mais ils sont comment ? Ils sont incapables de mener l'accomplissement en sa conscience, celui qui rend ses cultes. Maintenant, le verset 11. Mais Christ est survenu, grand prêtre des biens à venir. Verset 12. Et par le sang, non pas des boucs et des veaux, mais par son propre sang, qu'il est entré combien de fois ? Une fois pour toutes dans le sanctuaire. Et il a obtenu une libération provisoire, une libération éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux, et si le sang des génisses répandues sur les êtres souillés les sanctifie en purifiant leur corps, combien plus le sang du Christ, offert par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans tache, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour servir les dieux vivants? Donc l'unique solution que Dieu a trouvée, c'est qu'il fallait que le sang du Christ. Voilà pourquoi Jésus n'a pas commis de péché. Et parce qu'il n'a pas commis de péché, son sang est pur. Il a offert sa vie par son sang il était en mesure de rendre nos consciences libérées de toute forme d'œuvre morte, pour nous rendre capables de servir les dieux vivants. Voilà la bonne nouvelle que nous sommes appelés à annoncer, sans laisser un jour sans la proclamer. Chaque jour devait être un idéal pour nous d'annoncer cette bonne nouvelle. Alors vivre une vie pleinement vécue, je m'excuse ce pléonasme, c'est vivre en accord avec l'idéal de vivre pour le Seigneur. Annoncer, vivre cet évangile, l'annoncer en parole et en acte. Mahatma Gandhi a dit, il y a une cause pour laquelle je suis prêt à mourir et non à tuer. La cause en question, c'est la non-violence. Parce qu'il était l'apôtre de la non-violence. Mais nous, en tant que croyants, la cause pour laquelle nous sommes prêts à mourir, à donner notre vie, c'est quoi? C'est annoncer l'évangile par lequel nous avons été tirés des ténèbres, transférés à la lumière, tirés du gouffre, tirés de la perdition pour vivre une vie de liberté en Christ. Paul affirme en Actes 20, verset 24, « Ma vie n'importe peu, je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Voilà l'idéal si tu as été sauvé, si tu as été aimé par le Seigneur. Un message complet pour un témoignage complet, c'est découvrir l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Faire le deuxième pas, te repentir de tes péchés. Reconnaître que il faut abandonner le péché. Il faut vivre pour le Seigneur. Il faut donc se détourner du péché pour se tourner vers le Seigneur. Parce que tu mérites la punition de Dieu. J'ai mérité la punition de Dieu. Mais en Christ, Christ est mort. Et il a pris la condamnation qui devait tomber sur moi. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est mort sur la croix. Il a versé son sang pour mes péchés. Pas pour nos péchés, pour mes péchés. La repentance est suivie de l'acte important de recevoir Jésus, de devenir son témoin, de vivre pour lui toute ma vie. Que si j'ai encore 30 ans à vivre, toute ma vie, proclamer le message. Je voudrais terminer par une petite histoire d'un enfant, un jeune qui accompagnait son père pour distribuer les traités. Ils étaient suffisamment engagés que chaque jour, ils allaient dans ces traités, il était spécifiquement écrit « Dieu t'aime ». Il a donné son fils à la mort sur la croix pour que tu vives une vie significative sur la terre. Alors, ils allaient chaque jour, chaque matin, au point que c'est devenu un devoir qui s'était fait tous les deux. Un matin, il arrive, son père lui dit, nous n'irons pas aujourd'hui. Il lui pose la question, pourquoi? Il dit, il pleut, on ne saura pas marcher. L'enfant lui pose la question à son père, est-ce que quand il pleut, les gens qui meurent ne vont pas en enfer s'ils n'ont pas connu le Christ? Le petit est parti, il a laissé son père. Il ne faisait que toquer à des portes pour déposer les traités. Et en les déposant, dire, le Seigneur t'aime, Dieu t'aime. Il a toqué à une porte, ça a pris du temps, personne ne venait. Mais il a tellement insisté que des minutes plus tard, finalement, la personne, une vieille maman, est venue. Il lui a dit, maman, je suis venu t'annoncer que Jésus fait quoi? Jésus t'aime. Ne fût-ce que dire ça à quelqu'un. Parce qu'il y en a qui ne s'aiment plus à cause de leur péché. Il y en a qui ont perdu du goût à leur propre vie à cause de la manière dont ils vivent. Il y en a à qui on dit que toi, tu es un raté. Il n'y a rien pour toi qui peut encore réussir. Il a dit à cette dame, Jésus t'aime. Il est parti. La dame en question était effectivement en train, avait déjà mis la corde pour se suicider. Et c'est pendant qu'elle était en train de mettre la corde que cet enfant a insisté jusqu'à ce qu'elle finisse par dire, je vais voir ce qui. Et quand elle est retournée, elle l'a lu. Elle a pleuré. Elle ne s'est plus suicidée. Le dimanche qui a suivi, elle est venue dans cette église dans laquelle
Le fils de ce jeune homme était pasteur. Il a dit, je n'ai jamais été ici. Mais il y a quelques jours, j'étais en train de mettre fin à ma vie à cause des drames que je suis en train de vivre. N'eût été cet enfant, ce jeune homme, quand je l'ai vu venir chez moi avec un visage radieux, reluisant de joie, de bonheur, alors que moi-même, j'étais triste au fond de moi-même, presque mort au-dedans de moi-même, j'ai dit, si cet enfant est de cette manière, il me dit que Dieu m'aime, peut-être que moi aussi, je peux retrouver le sens de vivre. Elle a dit, j'ai pris la décision de répondre à ce message. Et aujourd'hui, je me sens allégé. Alléluia. Nous avons un message. Nous avons un trésor. Il ne faut pas le cacher. Si nous avons découvert à quel niveau c'est un trésor, nous devons le proclamer. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.